Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Virginie Ruffnacq, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi première vice-présidente du Congrès et vice-présidente du Rassemblement. Virginie Ruffnacq, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation alors que les négociations sur l'avenir institutionnel ont débuté en présence du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et qu'un document a été publié. Il est intitulé « Orientation présentée par le gouvernement après les réunions de Nouméa » et il suscite un certain nombre d'interrogations et de réactions. Mais d'abord sur les discussions elles-mêmes qui se sont tenues à Paris en bilatéral, puis en plénière à Nouméa. Dans quelle ambiance, dans quel état d'esprit? Tout le monde a dit « Ah, c'est très constructif », mais peu de choses ont filtré. Alors, comment se sont passées ces réunions?
Écoutez, bon, là, le premier constat plutôt positif, c'est la présence autour de la table de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble des parties prenantes, ce qui n'était pas arrivé de longue date sur la séquence de Nouméa.
Est-ce qu'on sait ce qui a convaincu d'ailleurs Lucie Fellenkes de venir autour de la table, puisqu'il refusait depuis des mois?
Peut-être que je n'ose pas trop dire un certain nombre de mots prononcés par le MINUS qui étaient quand même très ambigus de notre côté et qui ont fait que peut-être ils ont été convaincus. Non, je plaisante. Ça sera à eux à qui il faudra poser la question. En tous les cas, je constate que tout le monde est autour de la table. Une ambiance d'ouverture dans les discussions, dans le sens où chacun a exprimé avec beaucoup de franchise ses aspirations. Et puis, je voudrais dire aussi aux Calédoniens, de notre côté, le rassemblement, une grande unité avec nos partenaires loyalistes. Et ça a valu beaucoup de calage entre nous avant, pendant, après ces discussions pour véritablement parler d'une voix totalement commune sur l'avenir institutionnel.
L'objectif, c'est vraiment une volonté d'aboutir à un accord, que ce soit vraiment constructif pour l'avenir.
Oui, évidemment, nous avons envie de dégager l'horizon des Calédoniens, de leur donner des perspectives, de qu'ils puissent se projeter vers leur avenir désormais. Et nous avons aussi cette responsabilité de leur tracer une voie d'avenir. C'est la responsabilité des hommes et des femmes politiques en Nouvelle-Calédonie. Je note d'ailleurs que le député Tchibaou a commencé sa déclaration introductive par cela en disant « Nous nous inscrivons dans l'héritage de nos anciens, nos références sont les accords de Matignon et d'Oudinot puis de Nouméa et nous comptons bien tenter d'avoir un accord ». En tout cas, ce sont les propos qui ont été tenus par les partenaires indépendantistes de l'UCF-LNCS jusqu'à l'UNIPALICA. Donc, à ce stade, nous étions effectivement dans le fait de poser sur la table l'ensemble des aspirations des uns et des autres.
Alors depuis, il y a eu notamment la convention du FLNKS cette semaine. Alors il y a toujours une ambiguïté, discussion, négociation. On n'est pas forcément d'accord sur les termes. En tout cas, la délégation, au sortir de cette convention, un communiqué a été publié qui dit que la délégation du FLNKS a mandat pour continuer les discussions, mais pas pour entrer en négociation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils ne veulent pas d'un accord?
Écoutez, moi, je comprends qu'il pose un certain nombre de requêtes. J'entends que la première requête, c'est de pouvoir discuter de la pleine souveraineté, de la trajectoire plutôt vers une pleine souveraineté. C'est vrai que ça ne figure pas dans le document et on dira peut-être après pourquoi. Parce qu'il y a eu 3 référendums et nous, en tout cas, un des piliers fondamentaux de pouvoir, de notre côté, être en négociation, c'était que ce premier principe, le respect des 3 référendums et de la volonté des Calédoniens de rester au sein de la République française, soit une base de discussion. Or, c'est le cas, puisque ça figure dans ce document. Alors, eux, c'est leur requête, ça. Bon, on peut respecter leur point de vue. Ça sera à l'État de leur dire ce qu'ils en pensent. Mais la seconde requête, c'est le fait que Christian Théin soit autour de la table. Et autant chacun peut défendre ses aspirations sur les cas de M. Théin. On sait aujourd'hui que des soupçons pèsent sur lui avec des chefs d'accusation importants, hein, de destruction volontaire, incendie volontaire. Enfin, en tout cas, un chef d'accusation suffisamment important, manifestement, pour que la justice ait décidé de le placer en détention provisoire. Ces soupçons qui pèsent sur cette personne, et notamment le fait qu'il était porte-parole de la CCAT, dont aussi des soupçons pèsent sur cette organisation, disant qu'elle est à l'origine elle serait à l'origine des exactions, de la violence extrêmement intense qui s'est abattue sur la Nouvelle-Calédonie et qui plonge des milliers de Calédoniens dans le chaos, sans emploi, sans maison, sans entreprise, sans travail, sans capacité de nourrir dignement leur famille. Tout cela fait clairement que pour nous, cette requête est juste inacceptable. Nous ne serons pas autour de la table avec une personne qui était porte-parole de cette organisation. Nous considérons que ça n'est pas moral, que ça n'est pas éthique et que nous ne serions pas dignes de ce que nous représentons si nous siégeons autour de la table avec une telle personne, avec, encore une fois, les lourds chefs d'inculpation qui pèsent sur lui, avec la violence que nous avons connue. Ça n'est juste pas possible. Donc, Il pose des choses. Moi, je considère aujourd'hui qu'il faut avancer. On ne peut plus procrastiner. Ça veut dire qu'il faut avancer dans ces discussions.
Mais à votre avis, ils vont être là la semaine prochaine ou dans 10 jours autour de la table, ou si l'État n'a pas levé les conditions qu'il pose une fois de plus?
Écoutez, Elisabeth, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Et déjà, on essaye de se mettre dans la tête de l'État régulièrement, les partisans de la France, pour savoir que veut faire l'État de nous. Si tout le temps, nous devons être aussi dans la tête des indépendantistes, ça commence à être un petit peu schizophrène comme attitude. Donc, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a responsabilité à être autour de la table pour avancer, que les requêtes sont acceptables quand elles sont de l'ordre des convictions. Nous avons posé nous-mêmes des requêtes sur la table pour pouvoir continuer à négocier.
On va y venir.
Il y a des choses, en tout cas, qui sont inacceptables et nous ne serons pas autour de la table si M. Théin y est, par respect des milliers de Calédoniens qui sont dans des situations très difficiles aujourd'hui. Je veux rappeler quand même que M. Théin a donc été porte-parole de cette organisation qui est la CCAT, dont certains des membres ont affirmé publiquement qu'ils allaient mettre le feu à Nouméa. Donc, vous voyez un peu cette situation. Les responsables politiques sont là pour le bien-être de la population. Donc, pour nous, ça n'est pas possible.
Alors, pour en venir au fameux document publié par l'État, qu'est-ce qu'il faut en penser d'abord? Quelle est sa portée? Est-ce que c'est seulement un compte-rendu des discussions? Est-ce que c'est un état des lieux? Ou est-ce que c'est déjà une base de négociation que l'État pose sur la table?
Il faut bien dire aux Calédoniens plusieurs choses simples. D'abord, ça n'est pas un procès-verbal. Nous ne l'avons pas signé. Aucun d'entre nous n'a signé ce document. Ce n'est pas un relevé de conclusion du comité des signataires que vous connaissez, même si nous savons qu'ils sont un petit peu pré-rédigés par l'État à l'avance. Malgré tout, nous sommes tous à Matignon dans les sous-sols à rédiger en commun avec l'État ces relevés de conclusion. Là, nous n'avons aucunement participé à cette rédaction. C'est uniquement un document du ministre d'État, Valls, qui pose sur la table, pour le compte de l'État, les hypothèses qu'il considère avancées par les uns et par les autres. Nous avons été consultés très peu de temps sur ce document. Nous avons rectifié des choses nous concernant qui ne nous semblaient pas exactes. Mais il y a encore évidemment des imprécisions, notamment sur nos hypothèses, sur nos aspirations. Et donc c'est un document purement de l'État. Et ça veut dire que ça n'est pas un document de négociation. Il n'a pas été le fruit d'une négociation. Le ministre, il prend la parole des uns et des autres et il met dans ce document tout ce qu'il considère être la parole des uns et des autres.
C'est une compilation des différentes hypothèses.
Exactement, c'est une compilation et il considère que c'est un travail indispensable à pouvoir ensuite poser une négociation et cette fois-ci trancher et rentrer dans un vrai débat de négociation sur les sujets.
Alors on y retrouve, c'est un document de 11 pages, il a été rendu public, tout le monde peut le lire. On y retrouve les trois thèmes proposés par Manuel Valls, le lien avec la France et l'autodétermination, la citoyenneté calédonienne et le corps électoral, la gouvernance et les institutions calédoniennes. Déjà pour vous, il y a quand même des éléments positifs, des points dont vous êtes content qu'ils aient été relevés, qu'ils aient été soulignés?
Oui, absolument. Nous, il y a des points fondamentaux sur lesquels on n'aurait pas pu avancer dans la négociation non plus s'ils n'étaient pas là. Le premier d'entre eux, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le respect de l'expression des Calédoniens par trois fois lors des référendums de vouloir rester au sein de la République, que la Nouvelle-Calédonie reste au sein de la République française. C'est affirmé dans le document. D'ailleurs, le document indique, même si certains considèrent que la troisième consultation a un goût d'inachevé, ces référendums et l'expression et les résultats sont là. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire contre cela et on doit faire avec cela et dans le cadre de cela. Ensuite, la deuxième chose, d'ailleurs, le ministre le met en deux et non pas en trois dans les piliers des discussions qui arrivent, des négociations qui arrivent, c'est la protection des Calédoniens qui est pour lui un devoir de l'État.
C'est-à-dire l'ordre public, la sécurité.
Oui, je pense que, en fait, je crois qu'il y a une conscience du côté de l'État qu'il y a une défaillance de protection des Calédoniens au début des émeutes. Pour différentes raisons, je ne reviendrai pas dessus. Et donc aujourd'hui, il a conscience qu'il ne peut pas y avoir de discussion, il ne peut pas y avoir de négociation, il ne peut rien se passer en Nouvelle-Calédonie si la protection des Calédoniens n'est pas complètement assurée. Et nous avons apprécié qu'il place cela tout de suite en deux derrière le respect des référendums. Et puis en troisième position, c'est la démocratie et l'État de droit. On ne peut pas faire n'importe quoi. Nous sommes dans un pays, la France, qui est démocratique. Ces principes doivent s'appliquer en Nouvelle-Calédonie. Et donc, cet état de droit, il doit exister. Partant de cette base, nous pouvons rentrer en négociation. Il y a un second pilier sur lequel nous n'aurions pas pu avancer, nous, du côté des loyalistes Sonia Backès, Nicolas Mesdor, Gilles Brial et Alcide Ponga, moi-même, et Pascal Vittori, qui était associé à notre délégation. C'est, vous le savez, nous voulons une réorganisation de la Nouvelle-Calédonie avec la différenciation provinciale. On aura l'occasion sans doute d'en parler. Et ce principe de retour des compétences vers les provinces de la Nouvelle-Calédonie, c'est un élément fondamental sans lequel nous ne pourrons avancer également sur un accord.
Ça veut dire des éléments. Enfin, vous avez parlé l'autre jour de de fondamentaux non négociables, il y a des points qui vous feraient quitter la table ou qui vous feraient refuser de signer un document si ces fondamentaux-là n'étaient pas respectés.
Évidemment, si jamais on nous amène vers un État associé, une indépendance association, on ne signera pas.
C'est ce que craignent les Calédoniens. Ils ont peur qu'il y ait derrière tout cela la volonté d'arriver à une situation médiane et donc indépendance avec partenariat.
Mais je veux ici les rassurer. Je veux ici les rassurer parce que les Calédoniens, c'est eux qui nous ont donné notre mandat d'élu. Et ce mandat d'élu, il est pas pour signer une indépendance de quelque forme qu'elle soit. Ça veut dire qu'en plus, il y a eu 3 référendums, ils sont exprimés. Donc il faut que les Calédoniens réalisent que dans le camp loyaliste et celui du Rassemblement, nous sommes en fait là pour garantir le choix qu'ils ont exprimé du maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Et nous ne renierons pas notre engagement à ce niveau-là. Il faut qu'il soit totalement assuré là-dessus. Donc, si l'État devait vouloir nous emmener là-dessus, nous ne signerons pas, donc il n'y aura pas de compromis.
Bon, mais alors, c'est une négociation, bien sûr. On se dit, chacun doit faire des concessions. On recherche un compromis politique. Quelle est votre marge de manœuvre, finalement? Sur quoi est-ce que vous pouvez jouer? Parce que vous avez posé les fondamentaux, on imagine que les indépendantistes vont en poser aussi. Où est-ce qu'on trouve un compromis?
Écoutez, déjà, je note qu'on ne parle plus d'accord dans le document, mais de compromis. Hein, et compromis, ce sont des concessions mutuelles, par définition. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, que chacun fasse des concessions. Je veux dire que le camp de la France a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de concessions dans les différents accords et ces dernières années. Énormément. Nous avons fait beaucoup de concessions. Ça veut dire aujourd'hui qu'on attend aussi, de la part des indépendantistes, une avancée et qu'ils nous disent sur quoi ils sont capables d'avancer, en réalité. Moi, je crois que l'État et les responsables politiques calédoniens ont su être ingénieux pour trouver des dispositifs sur mesure pour la Nouvelle-Calédonie, qui finalement permet de ne renier personne et de respecter le principe démocratique, l'expression, tout en permettant la reconnaissance à la fois d'une identité et d'une revendication, d'une certaine façon. Je pense que nous sommes capables de ça. Mais la différence entre accord et compromis, c'est qu'un accord, on est très ambitieux, on est très large, et je pense que l'État réalise que c'est très compliqué, et que peut-être il faut revenir à quelque chose de plus raisonnable, de l'ordre du compromis, c'est peut-être quelque chose de plus limité, on va dire, qu'un accord très large. Mais dans ce compromis, eh bien, il y aura des choses essentielles. Je pense que nous pouvons y arriver.
Un compromis qui permette de sortir enfin de l'accord de Nouméa.
Absolument, c'est notre vocation. Vous vous rendez compte, si nous avons 2 accords et qu'à l'issue de ces accords, on doit projeter les Calédoniens vers autre chose et qu'on en est incapable, c'est que là, voilà, on procrastine. C'est bien la raison pour laquelle je vous disais que quel que le choix soit des uns et des autres. Et d'ailleurs, le ministre met en garde dans son introduction ceux qui, effectivement, ne rentreraient pas dans la démarche d'essayer d'avancer, en disant bien qu'ils seront responsables et comptables devant les Calédoniens du chaos généré par de telles situations, et dans lequel chaos dans lequel nous sommes déjà. Ça veut dire que, moi, je considère que tout le monde doit être autour de la table, qu'on doit essayer d'avancer, qu'on doit essayer de produire quelque chose qui projette les Calédoniens. Et s'il y en a qui ne veulent plus y participer, c'est de leur responsabilité à un moment donné, mais il faut qu'on avance. On ne peut pas laisser les Calédoniens livrés à eux-mêmes de la façon suivante.
Alors, parmi les éléments de ce document d'orientation, la question du lien avec la France et de l'autodétermination, c'est bien sûr le point sensible, celui sur lequel les débats ont dû être les plus vifs et les plus tendus. Mais déjà, l'expression « lien avec la France », est-ce que ça vous convient ?
Écoutez, je sais bien que les Calédoniens sont tendus sur ça. Nous aussi, si on doit tout dire aux Calédoniens, le premier jour de discussion, on avait 3 ateliers. Le premier titre de cet atelier était « Plus de souveraineté ». Le deuxième était « Comment faire pays ». Et le troisième était l'autodétermination. On a dit au ministre, nous n'assierons pas autour d'une table. On a dit avec les loyalistes, on ne va pas s'asseoir autour d'une table où on va travailler sur ces 3 sujets. Et donc ça a été changé entre le lien avec la France et l'autodétermination, le contrat social calédonien, et puis la citoyenneté, etc. Et ces éléments, ce sur quoi nous avons travaillé. Je sais que c'est compliqué. Il faut bien comprendre que le ministre, il a aussi des mots à respecter pour que toutes les parties prenantes soient autour de la table, et que même si 53% des Calédoniens ont choisi la République française, il y en a aussi 47 qui ont voté pour le oui à l'indépendance. Donc on est dans un pays où on est obligé, dans un territoire, on est obligé aussi de concilier les deux. Ce qui est important, c'est quoi pour nous? C'est d'abord qu'il affirme que les référendums doivent être garantis. Puis vous savez, c'est vrai, finalement, on ne parle plus de pleine souveraineté dans le document, on parle d'émancipation, on parle... Donc il faut bien un équilibre entre tout le monde. Il faut bien que tout le monde s'y retrouve à un moment donné. Donc moi, je vais essayer un petit peu de les rassurer là-dessus. Parler de l'autodétermination.
Oui, alors là, il y a 4 hypothèses hein, d'autodétermination. Encore une fois, ce sont des hypothèses, c'est un compte-rendu, ce n'est pas quelque chose de signé. 4 hypothèses d'autodétermination, mais est-ce qu'il y en a une qui est acceptable pour vous?
Alors nous, l'hypothèse que nous avons posée avec les loyalistes, c'est la 4e, hein, le statut de large autonomie, décidé en 2025, c'est-à-dire cette année, la large autonomie, hein, nous avons déjà beaucoup d'autonomie, mais c'est une très large autonomie, sans préjudice du droit à l'autodétermination, puisque l'État nous fait valoir, et dans ses principes aussi, que dans la Constitution, il y a un droit qui est toujours présent, possible, hein, pour quelques territoires d'outre-mer que ce soit, et qui est là, et que constitutionnellement, nous ne nions pas. Donc en fait, nous, c'est ça, on allons-y sur large autonomie, organisons-nous, voyons comment nous pouvons nous organiser, mais je veux mettre en garde. Nous ne serons pas dans un accord politique, politicien, idéologique. Nous serons, nous, dans un accord, un compromis pragmatique. La Calédonie est au bord de l'effondrement aujourd'hui. Les Calédoniens n'ont plus d'emploi, nos outils de production ont été saccagés depuis le 13 mai. Nous avons besoin de redonner des perspectives, de reconstruire la Calédonie, de remonter notre économie, que les enfants de ce pays aient un travail. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sera pas du symbolique. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une voie de reconstruction de la Calédonie. Et ce n'est pas un référendum qui va nous aider à reconstruire la Calédonie. Parce que les référendums, les Calédoniens, ils n'en veulent plus. Et je vais vous dire, hein, vous savez, je ne discute pas qu'avec des partisans de la France, hein. Et il y a beaucoup d'indépendantistes qui n'en veulent plus non plus. Hein. Qui n'en veulent plus non plus, parce que vous voyez la situation dans laquelle ça nous a mis aussi ces référendums. Nous, le Rassemblement, nous souhaitions qu'on aille vers un accord négocié, comme en 88 et en 98. On n'a pas été entendus. Après le premier, on a dit, bah, ça serait bien maintenant qu'on s'arrête, on arrête le jeu là, puis qu'on passe à autre chose. Voilà. Et les indépendantistes ont réclamé ces référendums. Et l'État, ils les ont exigés même, les indépendantistes. Et l'État les a organisés parce que les indépendantistes les avaient exigés. Et maintenant, il s'agit donc de les respecter, puisque c'est eux qui l'ont voulu, même si nous, au Rassemblement, nous privilégions une autre voie qui mettait moins face à face, bloc contre bloc, les deux légitimités de la Nouvelle-Calédonie. Donc tout ça pour vous dire quoi? Les référendums, on n'en veut plus, parce que là, on a un gros travail pour remonter la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire qu'il faut reconstruire, vous voyez bien, 56 bâtiments publics détruits, 14 écoles détruites, le monde économique complètement à l'arrêt, des milliers de Calédoniens qui s'en vont, un système de santé effondré, avec des tas de gens qui ne peuvent plus être soignés, des personnels soignants qui sont partis. Vous savez, on avait 15 kinés au Medipol. On en a un seul qui, actuellement, en arrêt maladie en plus. On a des centaines d'infirmiers qui sont partis. 20% de personnel médical au Medipol. Encore plus dans la province nord, sur le CHN. Enfin, franchement, il va falloir mettre un peu de pragmatisme, là. Il va falloir arrêter de mettre le masque sur les yeux, puis regarder la situation telle qu'on est. Et donc, c'est quoi l'intérêt d'avoir plus de compétences aujourd'hui, alors qu'on n'arrive déjà pas à gérer les compétences qu'on est censé exercer? Voilà. Bien falloir un petit peu être pragmatique. Et ce mot de pragmatisme, nous l'avons évoqué avec Pascal Vittori, Alcide Ponga, régulièrement lors de ces négociations.
Sur la citoyenneté et le corps électoral, on sait que c'est l'un de vos grands sujets, Virginie Rufnak. Alors là, l'ouverture aux natifs, ça semble acquis, mais on imagine que ça ne vous suffit pas, que vous allez demander davantage.
Il n'est pas question pour nous de n'ouvrir qu'aux seuls natifs. Ça n'est pas possible. Comment dans une famille, par exemple, on aurait une dame qui serait la maman des enfants, qui verrait ses enfants pouvoir voter, elle ne pas voter alors que son propre mari est citoyen calédonien? C'est juste pas possible. Donc ça veut dire qu'au-delà de la naissance en Nouvelle-Calédonie, il doit y avoir le paramètre de durée. Et il y a un système qui permet de réduire cette durée. Vous savez, on parle de citoyenneté, puisque l'UNIPADICA souhaitait avoir des intérêts, montrer que ses intérêts matériels et moraux sont en Nouvelle-Calédonie. Donc on pourrait avoir, et c'est un petit peu notre proposition, des formes de points de citoyenneté qui pourraient faire descendre, diminuer la durée exigée pour pouvoir voter. Mais il faut une durée, évidemment. Et là, vous voyez, cette citoyenneté, ces points de citoyenneté, ils pourraient être sur « j'ai acquis un bien en Nouvelle-Calédonie ». J'ai un de mes enfants né en Nouvelle-Calédonie. J'ai un de mes parents né en Calédonie. Je suis dans une entreprise. J'ai créé ou je dirige une entreprise en Nouvelle-Calédonie. J'ai rendu des services en représentant la Calédonie dans des événements sportifs. Il y a une liste complète en fait de critères qui montrent que la personne et qui pourrait diminuer cette durée de présence pour montrer l'investissement aussi de la personne en Nouvelle-Calédonie.
Est-ce que c'est pas un peu compliqué? Alors, les gens ironisent sur le permis à points pour pouvoir voter. Est-ce que c'est pas est-ce qu'il n'est pas plus simple d'essayer d'arriver à un corps glissant, comme ça avait été souhaité à de multiples reprises? C'est complètement inenvisageable, cette solution Vous aviez demandé 3 ans à un moment, 10 ans glissants pour revenir aux accords de Nouméa. Ce n'est plus une solution qui est sur la table.
Le problème qu'il y a, c'est que dans les discussions que nous avons eues, même presque après, jusqu'au 18 mai quasiment, avec les indépendantistes, c'est qu'eux, ils n'étaient pas sur 10 ans, parce que vous avez bien vu le sort qui a été réservé à la révision constitutionnelle, et l'État n'est pas allé au bout de cette révision constitutionnelle. On n'est pas allé jusqu'à Versailles. Et les indépendantistes étaient plutôt sur 15 ans pour certains d'entre eux. Ça veut dire que nous, ça nous paraît trop long. Ça veut dire que les gens qui ont tout un tas d'engagements en Nouvelle-Calédonie que je listais précédemment, pour nous, ils doivent voter à moins que cela. Et donc, ça a permis d'abaisser cette durée. Et puis, par ailleurs, les conjoints de Calédoniens, de citoyens calédoniens, ils doivent avoir aucune durée de présence nécessaire pour voter. Ils sont dans une famille, ils ont épousé un conjoint ou une conjointe calédonienne, ils ont sans doute des enfants calédoniens, et ils doivent avoir aucune exigence de durée de présence pour voter. Donc il faut, vous me disiez, est-ce que c'est pas trop compliqué? Mais ce qui est compliqué, Elisabeth, et je l'ai vécu personnellement, c'est d'avoir un critère très flou. Vous savez, nous, on a eu le fameux centre des intérêts matériels et moraux en Calédonie, l'État avait créé une commission du centre des intérêts matériels et moraux. Moi, j'étais désignée par le rassemblement pour aller dedans. Il y avait des représentants indépendantistes à l'intérieur et on se battait pendant des heures et des heures parce qu'on n'était pas d'accord sur les critères. Donc, on veut à l'avenir quelque chose de très cadré.
Le traduire en point, c'est plus simple. Finalement, c'est la même idée, mais c'est plus simple.
C'est codifié, il n'y a pas de possibilité d'interprétation et surtout, vous avez la durée, vous avez la naissance, vous avez les conjoints. On a une citoyenneté qui est inclusive, comme le dit le président de mon mouvement, très justement, Alcide Ponga, qui a un discours très vrai. Est-ce que nous faisons la Calédonie pour les cochons sauvages ou les serfs, uniquement? Ou est-ce qu'on veut qu'on ait une population investie, impliquée, qui développe ce territoire, qui s'y sente aussi chez eux, et qui permette qu'à l'avenir, la Calédonie soit plus économiquement...
Et les indépendantistes sont ouverts à cette ouverture, pour le coup, du corps électoral? Ou est-ce qu'ils restent très crispés sur cette question?
Je crois qu'il y a une volonté d'adjoindre des éléments de citoyenneté à la durée. Et cela s'est rendu possible par les pistes que j'évoque aujourd'hui. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est que ça aboutisse. Le corps électoral ne peut plus rester ainsi. Nous ne pouvons plus tenir d'élections provinciales sur la base du corps électoral gelé. Il faut donc trouver des solutions à cela. Et je crois que, eux, l'élément de citoyenneté est quelque chose d'important, qu'il s'agisse de l'UC ou qu'il s'agisse de l'UNI. Tous les deux avaient émis ces éléments de citoyenneté qui étaient, et d'intérêt matériel et moraux à préciser, qui étaient importants pour eux.
Alors, on en vient à la gouvernance. Et là, c'est un domaine dans lequel vous semblez avoir été le plus écouté. Une attention très particulière a été portée sur les pouvoirs des provinces comme échelon essentiel de proximité et d'efficacité de l'action publique. Et on parle de différenciation. Ça vous satisfait, on imagine? Et là aussi, est-ce que c'est une option qui est partagée autour de la table désormais? Elle a fait débat. Hein.
Nous, on a beaucoup travaillé à échanger avec l'ensemble des parties prenantes autour de la table, l'ensemble des groupes, qu'ils soient indépendantistes ou non, pour essayer de convaincre sur ce sujet. Très clairement, en 88, Michel Rocard comprend avec un peu de génie que la Calédonie, contrairement à ce qu'on passe son temps à dire, elle n'est pas une et indivisible. Elle est plurielle et en plus aujourd'hui, elle est particulièrement divisée. Il comprend ça et il essaye de faire la conciliation de tout cela. Et la conciliation de tout ça, pour lui, c'est de donner du pouvoir dans les provinces pour que chacun puisse développer son orientation et son ambition politique. Et de 88 à 98, ça marche. Les populations sont fixées dans leurs provinces. Et c'est qu'à partir de 98, l'accord de Nouméa, on recentralise tout vers la Nouvelle Calédonie, que les populations du nord et des îles, elles migrent vers le sud. Pourquoi nous voulons la différenciation et donc les compétences dans les provinces? Nous considérons aussi aujourd'hui que la Calédonie doit vivre un rebond économique. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, 91% de la recette fiscale est fabriquée par la province sud. Donc la province sud a un levier de rebond économique, malheureusement que les deux autres provinces n'ont pas immédiatement et tout de suite. Elle a, cette province sud, la capacité de rebondir, mais à condition d'en avoir la compétence. Il peut y avoir les impôts baissés, mais à condition que nous ayons la compétence de baisser les impôts. C'est la raison pour laquelle nous demandons que la fiscalité revienne vers les provinces. On peut faire venir des investisseurs, et voilà, à condition que le code du travail soit aussi modifié. Et puis par ailleurs, et Nicolas Metzdorf l'a très bien exprimé lors de ces discussions, nous avons besoin de protéger les Calédoniens. Donc nous avons besoin d'avoir, comme c'est le cas pour les municipalités, des polices de proximité dans les provinces qui permettent de sécuriser les gens au-delà de la compétence d'ordre public régalienne de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on dit, revenons vers nos provinces comme c'était le cas en 88, que le Nord et les îles aussi profitent de cette opportunité à nouveau pour se redynamiser. Mais remettons les compétences dans les provinces, parce qu'au Congrès de la Calédonie, nous passons notre vie à nous battre, et j'en sais quelque chose, pour un modèle unique et qui ne correspond pas aux trois provinces. Donc nous, on veut que le Nord et les îles fassent le modèle qu'ils souhaitent, mais on ne veut pas qu'au Sud, on nous empêche de mettre en œuvre un modèle de retour d'investisseurs, d'abaissement des impôts, de sécurisation. Voilà, nous voulons tout ça et nous le souhaitons aussi pour le Nord et pour les îles. Nous souhaitons le développement du Nord et des îles, mais nous ne souhaitons pas qu'on nous empêche, nous, de redévelopper la province Sud.
Il n'y a que 11 pages dans ce document, mais on n'a pas le temps de tout voir. J'ai envie de vous demander maintenant quelle va être la suite. Manuel Valls, c'est parti, mais il dit qu'il revient le 21, 22 ou 23 mars. Entre les deux, est-ce que vous allez discuter entre partenaires calédoniens? Est-ce que vous allez informer vos militants, vos sympathisants? Est-ce que vous allez arriver avec un document prêt pour eux quand le ministre sera là? Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Alors, plein de choses. D'abord, avec les loyalistes, Sonia Baquès, Nicolas Gilles, et puis Alcide et moi-même, et Pascal Vittori, le président de l'Association des maires, on a décidé de se déployer tous sur le terrain le plus largement possible pour déjà aller expliquer cette première phase de discussion aux Calédoniens. Nous considérons que nous leur devons cette transparence. Hier soir, moi, j'étais à Tomo. Avant-hier soir, on réunissait cadres, collaborateurs et forces vives du rassemblement, avec plus de 100 personnes, pareil, hier soir, 75 personnes à Tomo. Voilà, nous essayons de diffuser l'information, Sonia le fait également. Et donc, c'est important pour nous, cette présence sur le terrain. Nous allons bien sûr discuter entre nous. Le ministre évoque des visioconférences avec lui entre-temps, et il reviendra cette fois-ci pour tenter de rentrer dans une vraie négociation, sur la base des ensembles des hypothèses posées par les uns et par les autres. C'est ça, maintenant, notre enjeu, et nous allons mettre toute notre énergie là-dedans.
La date du 31 mars, on ne sait plus si c'est une date butoir ou non. On dit à la fois qu'elle est impérative si on veut pouvoir tenir les élections à la fin de l'année, et en même temps, non, mais c'est pas la peine, il faut avoir un accord, même si ça prend plus de temps. C'est quoi votre position?
Non, moi je comprends que le ministre dit on prend le temps, mais qu'en même temps, le calendrier s'impose à nous. Ça veut dire que cette date du 31 mars, elle est toujours là. Vous savez, en fait, en vrai, les gens pensent qu'on veut pas avoir d'élection et qu'on veut être élu ad vitam aeternam, mais alors vraiment pas du tout. C'est-à-dire qu'en plus, un élu, il aime les élections, parce que quand on est élu, on veut aller challenger, on veut aller vivre des élections, voir si on arrive à convaincre à nouveau, ou si les gens nous disent « bah non, on en a marre de vous, on veut voir d'autres gens ». Donc en fait, en vrai, on considère déjà, on va avoir au mois de mai un an de plus de mandats que ce qui était prévu au départ. Nous souhaitons des élections, mais évidemment, nous souhaitons un accord. Il faut rester sur cette date pour nous du 31 mars. Elle peut être décalée de quelques jours ou de quelques semaines, mais il faut rester là-dedans, parce que plus on donne du temps, et finalement, plus ça traîne. Et vous vous rendez compte, Elisabeth, ça fait 4 ans presque bientôt, enfin 3 ans et demi, on va dire, que le dernier référendum de l'accord de Nouméa a eu lieu en 2021. C'est quand même... Ça remet en cause la capacité des élus à avancer sur les sujets. Et là, nous devons avancer.
Et puis, il faut un accord sur le corps électoral avant les élections, de toute façon.
Et de toute façon, il faut un accord sur le corps électoral. Donc, l'accord doit intervenir, le compromis politique, le plus rapidement possible, pour mettre en œuvre tous les éléments de ce compromis politique. Et vous avez parlé du corps électoral, mais dans le document, il y a aussi le changement de représentation au Congrès de la Calédonie, où jamais nous n'avons su ça de l'histoire de la Calédonie. Ça n'a jamais été fait, ni en 88 ni en 98, où il faut aujourd'hui 2,5 fois plus d'habitants pour faire un élu de la province sud que pour faire un élu de la province des îles. Alors, je prends souvent une analogie qui correspond bien à notre histoire et à la mienne en particulier. Nous sommes, côté partisans de la France, avec un boulet au pied. La ligne d'arrivée de la course, elle est là-bas à 100 mètres. On nous met un boulet avec cette surreprésentation du Nord et des îles. Et puis, par contre, c'est beaucoup plus simple de faire un élu en province des îles et en province nord, et donc dans des provinces très, très largement, majoritairement indépendantistes. Ça veut donc dire que ça ne peut plus durer, et c'est dans le document aussi. C'est dans le document aussi, parce qu'il faut rééquilibrer. Et la démocratie état de droit, c'est marqué comme pilier de la négociation. Et cette démocratie fait que la population, elle doit être représentée par des élus. Et on ne peut plus avoir 59% d'élus de la province sud au Congrès, alors qu'on a plus de 75% à gérer de la population en province sud.
Beaucoup de choses, on n'a pas le temps de tout voir encore une fois. Je voulais aussi vous entendre avant la fin de cette interview, Virginie Rufnak, sur les Républicains. C'est le parti national auquel est affilié le Rassemblement. Il doit élire son président prochainement. Pour l'instant, il y a 2 candidats déclarés, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Est-ce que vous allez soutenir l'un d'eux? Comment va s'organiser le Rassemblement dans cette nouvelle campagne électorale, campagne interne, là?
Écoutez, non, Alcide Ponga président du Rassemblement, moi-même, vice-président du Rassemblement, le secrétaire général, Jean-Anne Courtois, nous allons organiser ces élections très loyalement et ça nous empêche de nous engager dans la campagne de l'un ou de l'autre. Le Rassemblement, à son dernier congrès, avait près de 1100 adhérents lorsqu'on a élu Alcide Ponga. C'est un vote interne, donc seuls les adhérents du Rassemblement peuvent participer à ce vote. Et par conséquent, nous allons organiser deux comités de soutien en interne pour chacun des candidats. Je veux rappeler qu'on a ici deux personnalités de grande qualité, je dirais, à la fois Laurent Wauquiez, qui est le président d'une grande région Auvergne-Rhône-Alpes et qui a fait des choses assez extraordinaires dans cette région qui fonctionne très bien et donc qui est quelqu'un qui sait gérer et avec des positions d'une droite incarnée sans aucune ambiguïté. Et puis on a Bruno Retailleau, qui est un grand ministre de l'Intérieur aujourd'hui, avec également des positions sans ambiguïté. Donc nous avons deux très bons candidats pour la présidence de notre famille.
Qui sont tous les deux venus en Calédonie, d'ailleurs.
Oui, qui connaissent tous les deux très bien la Calédonie, que nous avons accueillis en Nouvelle-Calédonie tous les deux, à plusieurs reprises. Et donc, par conséquent, nous allons organiser loyalement cette élection pour nos militants, avec évidemment des bureaux de vote à cet effet, pour qu'ils puissent voter en proximité, avec un vote électronique, hein, vous savez, qui est parfois un petit peu difficile.
Ah, il faut être à jour de cotisation, enfin, vous donnerez, j'imagine, toutes les modalités.
Oui, bien sûr, il faut être à jour de cotisation 5 avril, donc on a une grande campagne actuellement, effectivement, de renouvellement pour ceux qui ne le seraient pas, et effectivement pour que l'ensemble de ceux qui le souhaitent puissent participer à ce choix important pour notre famille politique.
Alors hier, Georges Naturel a annoncé qu'il allait présider le comité de soutien à Bruno Retailleau. Est-ce que ça s'est fait en concertation avec vous, avec le Rassemblement en tout cas ?
Non, mais je vous rappelle que Georges Naturel n'est plus membre, a quitté le Rassemblement il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. Par conséquent, c'est un soutien en dehors de la famille du Rassemblement qui finalement est le parti à affilié aux Républicains au niveau national et qui fait les 1100 adhérents que je précisais précédemment. Ça veut dire que, bon, ben voilà, il le soutient, il est sénateur LR, tant mieux, mais en tout cas, nous, le Rassemblement, c'est le vote interne qui est là, puisque ce sont les militants qui sont appelés à choisir, et nous aurons effectivement deux personnalités qui soutiendront chacun des candidats, et nous le ferons de manière très équitable, de façon à ce que vraiment nos adhérents soient totalement libres de leur choix.
Beaucoup d'échéances donc à venir encore, donc cette élection qui va venir assez rapidement, la reprise des négociations autour du ministre des Outre-mer, le congrès, vous arrivez aussi à vous y concentrer et, à y travailler. Je rappelle que vous êtes première vice-présidente
et puis président du groupe Rassemblement au congrès, bien sûr. Alors écoutez, oui, on est très très occupé au congrès. Pourquoi ? Parce que le président du gouvernement, Alcide Ponga, a mis en place une méthode qui rompt avec la méthode du précédent président du gouvernement, c'est-à-dire qu'il est en contact permanent avec le Congrès. Nous avons eu avant-hier un séminaire budgétaire et financier où enfin il est venu avec un grand nombre. C'est la première fois, on avait 8 membres du gouvernement présents lors de ce séminaire d'une journée entière, où l'ensemble des données de la Nouvelle-Calédonie ont été fournies aux conseillers du Congrès. C'est une chose unique, on n'a jamais eu ça au préalable, c'est-à-dire l'ensemble des situations. Alors, ce n'est pas une journée très gaie, car les critères sont effectivement très, très graves, enfin, dans une situation difficile. Néanmoins, ça nous permet vraiment d'agir. Et vous voyez, ce soir à 18h, eh bien, il associe Alcide Ponga, le président du gouvernement, les chefs de groupe du Congrès à une visioconférence avec la mission reconstruction. La grande chance, c'est que cette mobilisation, notamment du gouvernement aujourd'hui, et des provinces, bien sûr, aussi. Et Sonia Backès est très mobilisée sur ces sujets également pour la province sud. Eh bien, permet que l'État et le ministre Valls mettent les fonds très rapidement. Les 24 milliards de subventions de reconstruction, nous les avons. Sonia Backès m'indiquait hier que dès la semaine prochaine, les premiers travaux de reconstruction pourront commencer. Donc, on le voit bien, on a des responsables province sud, là, et en tout cas à la tête du gouvernement, qui permettent d'avancer vite sur ces sujets pour que rapidement, la reconstruction et donc les carnets de commandes des entreprises puissent se remplir et que les Calédoniens puissent retrouver du travail. Par ailleurs, vous voyez, c'est dans la difficulté qu'on est capable de faire des choses bien. Hier, au Congrès, nous avions une commission qui permettra d'alléger les procédures, notamment d'appel à concurrence, où on augmente le montant pour l'appel à concurrence et pas à des petites sommes où on doit rentrer en appel à concurrence, où on force les chantiers de plus de 40 millions à accéder à la sous-traitance, donc à aller vers les petites entreprises. Obligatoirement, il y aura un minimum de pourcentage pour les petites entreprises en sous-traitance. Donc il n'y aura pas que les gros qui participeront à la reconstruction. On veut que tout le monde ait une part du gâteau en la matière et que nos entreprises puissent retrouver des couleurs. Et donc c'est un message d'espoir que je voudrais dire, les élus calédoniens sont mobilisés pour que cette reconstruction soit rapide et participe à tous les Calédoniens.
Ce sera le mot de la fin. Merci Virginie Le Fenac d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence.